quand même mi-janvier.
Voilà, oui, ça marche.
Enfin, on est jusqu'à la fin du coup.
Bref, bonne année donc, mais je ne suis pas venu là que pour vous présenter les jeux. Je suis venu là pour ouvrir ce 30e. Entrée. Bonjour. Entrée. Vous signerez après. Ou alors maintenant. Non, allez-y. Non, allez-y, vous pouvez. Oui, signez.
Excusez-moi.
Nous commencions juste là. Pratique, hein, dans le noir.
Oui, oui. Ça y est, j'ai trouvé.
Tout va bien. Voilà, oui. Vous savez que nous abordons aujourd'hui le 30e atelier Histoire de l'art, hein, mine de rien. Hein. Ça fait des années qu'on a commencé. Hein. 30e, c'est pas mal. On a prévu qu'on sera le 100e de Sabrel Champagne.
Hein. Ah, c'est bien.
Ah, avant.
Avant.
50.
En tout cas, celui-ci est, vous le savez, consacré à la tapisserie. Et on va, je crois, aborder la tapisserie d'une manière assez chronologique. Je n'ai pas encore tout décidé sur les 5 séances, mais quand même, je pense que l'on va regarder ça de manière assez chronologique. On va donc commencer aujourd'hui par les plus anciens témoignages de la tapisserie en Occident, car c'est bien quand même l'Europe occidentale, hein, que nous allons explorer autour de ce thème-là. On va commencer aujourd'hui par le Moyen-Âge, et puis on continuera après, par des périodes successives et de plus en plus récentes. Donc c'est aujourd'hui, décidément, l'époque médiévale que nous allons aborder. Et pour nous mettre un peu dans le thème, pour nous chauffer un peu à ce sujet-là, je me propose, en ouverture de cette séance, de vous montrer déjà une tapisserie, ou plus exactement, deux tapisseries, mais bon, on va voir, pour que, encore une fois, nous entrions un peu dans ce sujet-là. Alors voilà les deux tapisseries que je voulais vous montrer. Je vous les montre. Après, vous aurez à en parler. Voilà les deux tapisseries que je souhaitais vous montrer pour débuter dans ce cycle. Alors, vous savez que nous avons nos petites méthodes ici, hein, dans les ateliers d'histoire de l'art. Hein. Quand on regarde une œuvre, on a une certaine méthodologie pour en parler. On va donc peut-être d'abord évoquer un certain nombre de questions un peu techniques et pratiques. Encore qu'on ne va pas rentrer, du moins cette fois, dans des questions techniques très pointues. Hein. Et puis évidemment, après, on va voir ce qu'il en est au niveau de l'iconographie. Alors, que vous inspire déjà, sur un plan un peu technique, pratique, ces deux tapisseries, avant peut-être que nous abordions le sujet. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Ça pourrait faire penser à ça. Hein. Alors.
Les dimensions.
Ouais, alors. Difficile évidemment sur une diapositive de les voir, hein, mais c'est vrai que c'est une question très importante. Hein. À votre avis, à vue de nez, hein, je ne vous demande pas, on sortirait de près. Oui, c'est assez grand. Hein, oui. Cette pièce fait à peu près, oui, voilà, 4 mètres de long à peu près. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que je vous montre cette tapisserie et celle-là? Alors, ça, c'est au niveau de la thématique, de la représentation. Pardon ? Alors, il y a des questions concernant le type du tissage. On n'abordera d'ailleurs pas aujourd'hui, à partir du moyen, ces questions-là qui sont pour le moyen un petit peu complexes, qu'on réabordera certainement plus tard. Hein. Problème de haute lisse, basse lisse, par exemple, hein. Effectivement. Mais je vous montre deux tapisseries dont vous aurez remarqué qu'elles représentent des choses un peu équivalentes. On va revenir au sujet après. Hein. Et qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
C'est pas religieux du tout.
Alors, en l'occurrence, c'est pas religieux du tout. Mais le fait qu'il y ait deux tapisseries sur des thèmes très proches, hein, on va y revenir.
Ça va dans la même pièce?
Alors voilà, c'est effectivement deux tapisseries qui sans doute allaient dans la même pièce, encore que, justement, à propos de la de sections techniques liées aux tapisseries, est-ce qu'elles sont liées à une pièce?
Non, parce que les tapisseries étaient sans cesse à bouger.
Voilà. Les tapisseries sont un art de l'itinérance. Une tapisserie n'est en général, du moins dans ces périodes-là, hein, pas faite pour orner une pièce. Sont des objets qui itinèrent. Autrement dit, on peut dire, tiens, la tapisserie est faite pour la pièce A du château untel. Hein. Ces pièces-là étaient, bougeaient en permanence, allaient d'un lieu à un autre. Elles constituent des éléments de décor temporaire, si vous voulez. Hein. Yeah. Donc ça, c'est une première chose importante. Hein. Au Moyen-Âge, la tapisserie n'est pas un décor permanent pour un lieu définitif. La tapisserie est un élément qui itinère, qui appartient à ce qu'on, comment est-ce qu'on a, on appelle d'ailleurs ces objets qui vont d'un lieu à un autre, qui bougent ?
Mobile.
Le mobilier, tout simplement. Mobile. Mobilier, les mobiles, comme son indique. La tapisserie, c'est du mobilier, ça bouge. C'est présenté un jour dans un lieu, un autre dans un autre, ça bouge. C'est pratique, ça se roule, ça se plie, c'est pratique. Et donc, encore une fois, il y a deux tapisseries. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Effectivement, on pouvait les présenter, même ces itinéraires, dans une même pièce, oui. Mais encore.
Les animaux enchaînés.
Alors, ce sont les animaux enchaînés, ça c'est au niveau de la représentation, mais le fait qu'il y ait deux tapisseries sur un thème équivalent, qui représente effectivement des animaux enchaînés, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça rappelle des histoires, des
complémentaires. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas une tapisserie, il y en a deux. Pourquoi ?
Mais pourquoi pas ?
Ah, c'est une bonne raison, mais il y a quand même une raison. C'est-à-dire, arrêtons, bon, il y a une tapisserie, puis c'est marre. Pourquoi deux ?
Eh ben parce que si la pièce où on venait était plus petite, elle ne pouvait pas contenir la plus grande.
Il y a donc un problème de liaison au lieu éventuel où on met cette tapisserie. Oui.
Il y a deux écus différents qui ne sont pas les mêmes dans les deux tapisseries.
Alors, effectivement, il y a des écus différents qui ne sont pas les mêmes. Ça peut raconter une histoire. Mais quoi, une histoire, c'est un peu difficile de raconter sur une seule pièce. Donc, il faut plusieurs pièces de tapisserie. Comment est-ce qu'on appelle d'ailleurs un ensemble de tapisserie ?
Il y a un nom ?
Oui. Ça s'appelle une tenture. Une tenture, c'est un ensemble de tapisseries. Vous connaissez certains ensembles de tapisseries où il y a 4 ou 5 tapisseries, c'est une tenture. La tenture est faite de tapisseries, de pièces de tapisseries autonomes, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, très souvent, au Moyen-Âge, il est bien rare qu'on ait une tapisserie toute seule. Généralement, les tapisseries font partie de tentures dans lesquelles il y a plusieurs pièces. Qui raconte effectivement des histoires ou autre chose. Hein. On parlera du répertoire tout à l'heure. Hein. Donc effectivement, il est bien rare qu'on ait des pièces seules. Généralement, au Moyen-Âge, les tapisseries font partie de cycles, de tentures. Hein. Donc là, vous avez une tenture avec cette tapisserie-là et celle-là, pas la même taille. Pourquoi ?
Sur des pendules différentes.
Ah oui, on a dit que ça bougeait.
Oui, on sait pour la différence.
Donc, une tapisserie n'est pas forcément faite pour un pendule particulier.
Derrière une porte, quand même.
Peut-être. Mais il y a peut-être d'autres raisons.
Peut-être qu'il y avait d'autres tapisseries.
Alors, peut-être y avait-il effectivement d'autres tapisseries dans cette tenture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que deux, celle-ci et la précédente. Mais rien ne dit qu'il n'y en avait pas d'autres.
Tout un ensemble.
Simplement, le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge. Ça fait quand même plus de 500 ans. Hein. 500 ans, il se passe pas mal de choses. Et notamment quoi ?
L'usure, les destructions,
les guerres ne sont pas la seule raison. Qu'est-ce qui pouvait encore détruire les tapisseries ?
Des incendies.
Bien sûr, tout ce qui est animaux, mythes et autres. Hein, ouais. Et puis
Les incendies,
bien sûr. Et puis
le désintérêt pour la chose.
Alors, le désintérêt après le Moyen-Âge, absolument, a pu en détruire. Mais au Moyen-Âge même, qu'est-ce qui pouvait aussi fragiliser ces tapisseries ?
Le fait de les déplacer sans arrêt.
Les cheminées, le feu, etc., effectivement. Mais les transports. Parce que quand vous transportez les tapisseries, au bout d'un moment, surtout que quand vous les transportez, il ne fait pas toujours beau, il peut pleuvoir. Donc vous avez des tapisseries qui, quelquefois, sont dans des chariots, qui soient de la pluie pendant une semaine. Alors évidemment, elles sont bâchées et autres. Ça marche pas.
Elles sont dans des coffres.
Elles peuvent être dans des coffres. Mais les coffres ne sont pas toujours parfaits. Enfin voilà, hein. Tout peut arriver. Hein. Donc effectivement, les tapisseries ont pu, au Moyen-Âge même, beaucoup s'abîmer. Ce qui fait que certaines ont été détruites, ou bien encore,
une exposition à la lumière pour l'une, pas pour l'autre.
Alors voilà, l'exposition à la lumière est également quelque chose qui anime les tapisseries, absolument. Et puis qu'est-ce qui a pu également arriver quand les tapisseries étaient abîmées ?
On les coupe.
On les coupait. Ce que vous avez là, c'est une tapisserie qui est assez vraisemblablement un fragment de tapisserie. D'ailleurs, on devine sur la droite des choses là, donc on pense que ça devait continuer. Voilà. Hein. Il est bien possible qu'on ait là un élément d'une tapisserie plus complète dont on n'a plus qu'un fragment. Sachant qu'il y avait peut-être encore d'autres tapisseries dans la tenture, mais qui ont disparu. Donc quand vous regardez une tapisserie médiévale, dites-vous bien que c'est assez vraisemblablement une pièce d'une tenture où il y avait d'autres pièces. Et que la pièce que vous regardez n'est peut-être pas complète. Elle a peut-être été coupée en haut, en bas. Elle peut être complète, mais elle peut être encore une fois fragmentaire. Ça, c'est des éléments qu'il faut toujours avoir en tête quand vous regardez une tapisserie médiévale. Pour une tapisserie postérieure aussi, d'ailleurs. Hein. Mais c'est encore plus vrai pour le Moyen-Âge, parce que c'est plus ancien. OK ?
Oui.
Alors, maintenant qu'on a vu cette espèce de matérialité de la tapisserie au Moyen-Âge, qu'est-ce que vous y voyez cette fois au niveau du sujet ? On va regarder la plus grande des deux.
Des animaux.
Alors, effectivement, il y a des animaux enchaînés. Oui. Alors, effectivement, il y a deux ours. On peut imaginer qu'il y a un ours mâle et un ours femelle, peut-être. En tout cas, deux ours, oui, enchaînés, effectivement.
Dans un paysage bucolique.
Dans un paysage bucolique, oui.
De la verdure.
De la verdure et des rayures.
Des rayures
et des lettres.
Et des monogrammes.
Des monogrammes. On voit effectivement des monogrammes sur le fond qui se détachent sur des rayures, rayures sur lesquelles il y a des monogrammes, effectivement, mais également des motifs floraux, vous l'avez dit, des plantes. Par parenthèse, vous avez évoqué, avec juste, à juste raison, le caractère bucolique des paysages dans lesquels les ours se déplacent. Enfin, ils ne se déplacent pas beaucoup puisqu'ils sont
enchaînés.
Ouais, ils sont enchaînés. Mais ces paysages, ils ont une caractéristique un peu singulière.
C'est des îles.
Oui, c'est des îles. Hein. Ce sont une espèce de petits îlots sur lesquels évoluent ces ours. Alors, on a parlé des ours et des ours sur leur paysage un peu particulier. On a parlé des rayures, avec aussi bien des thèmes végétaux que des initiales, dirons-nous. Et puis, il y a encore autre chose. Il y a des blasons. On en voit un là bien au centre. Hein.
Avec
des mains, on en voit un autre là. Voilà. Donc il y a effectivement des blasons. Bien. Ces blasons, c'est quoi ? Ils sont là pourquoi ?
C'est la signature.
Voilà. C'est effectivement la marque du commanditaire. Le commanditaire qui fait faire les tapisseries fait mettre ses blasons dessus. Voilà. Bien.
Ils ont des espèces de capes sur le dos.
Oui, ils ont une espèce de petite cape sur le dos. C'est assez curieux, ça. Ouais. C'est ce qui donne à ces ours un côté un peu humanisé, dirons-nous. Alors, on regarde l'autre pendant qu'on y est. Hein. Et qu'est-ce que vous pourriez dire ?
Que le blason n'est pas le même.
Que le blason n'est pas le même, effectivement.
Il a un petit sac.
Oui. Son petit sac, c'est un blason. C'est ça dont vous parlez ?
Oui.
Bah, c'est un blason.
C'est un blason.
Un blason qui tient... Oui, par une espèce de bandoulière.
Le fond est le même avec les rayures et les monogrammes.
Voilà, même genre de fond, effectivement, rayures, monogrammes, éléments végétaux, etc. Bien. Vous avez une idée de la famille pour laquelle cette tenture, dont voilà deux éléments, a été réalisée ?
La famille ours.
La famille ours.
Ça serait en Alsace, non ?
En Alsace ?
À Berne.
Mais
les bars.
C'est typique d'un pays. D'après vous.
D'un pays.
D'une région.
Une région. Pas très sûr.
Est-ce que des ours, il y en avait partout en France ?
Oui. Oui. Oui, et puis, pourquoi des ours et pourquoi pas autre chose ? Pourquoi pas un autre animal ?
C'est bizarre. Pourquoi enchaîner ?
Pardon ?
Et pourquoi enchaîner ?
Et pourquoi enchaîner ?
Oui, c'est ça. C'est un mariage.
Les montreurs d'ours.
Pourquoi des... Alors, évidemment, ça fait penser aux montreurs d'ours, effectivement. Hein. Les ours, on en voit beaucoup au Moyen-Âge, les montreurs d'ours. L'ours, c'est effectivement un animal que l'on croise. Mais pourquoi Des ours et pas un autre animal.
Est-ce qu'il peut se tenir debout ?
La provenance du pays où la tapisserie a été faite ? Peut-être.
Oui, peut-être. Ou debout les ours ?
Pardon ?
Les ours, c'est le seul animal qui se tient debout.
Le côté anthropomorphique, alors très humain, vous voulez dire, qui est d'ailleurs est accentué par les petites capes que l'on a vues. Hein. Donc une dimension humaine pour faire une sorte de parallèle entre l'ours et l'animal, pourquoi pas. Donc
l'origine de la personne qui a commandé.
L'origine de la personne, donc il y aura une sorte de parallèle à faire entre ces ours et le commanditaire de cette pièce. Enfin, de ces pièces, de ces, cette tenture. Hein. Pardon ?
Non, mais je ne sais pas. Non, oui, c'est bien de parler d'un mariage.
Un mariage, le fait d'être des chefs. Ouais.
C'est
un peu de mauvais. Oui, ce serait.
C'est pas optimiste.
Alors, en fait, vous avez assez raison dans, du moins, certaines choses que vous avez pu souligner. En fait, ces tapisseries ont été faites pour une famille qui est la famille des ursins.
Ah,
ursin, ours. Le nom ursin vient d'ours. Quand vous avez la famille des ours tout à l'heure, bah, c'était assez ça, finalement. Hein. La famille des ursins a notamment dans ses emblèmes un ours, et donc ces tapisseries ont été commandées par la famille des ursins, d'où le fait qu'on y voit des ours.
Des ursins,
oui.
Pardon ?
Les ursins,
oui. Les ursins sont d'une famille... par exemple, Juvenel, les ursins étaient un conseiller du roi de France à la fin du XVe siècle. Hein. Voilà, donc c'est une famille... Je ne sais pas quelle est son origine en France, d'ailleurs, mais en tout cas, ils se sont répandus à Paris à la fin du Moyen-Âge.
Hein. Du piquant.
Voilà. Donc, vous avez là, effectivement, deux pièces qui... qui appartiennent au musée du Louvre aujourd'hui, hein, qui date de la fin du Moyen-Âge. Et vous voyez donc ces ours. Alors, l'amusant, c'est que je crois que c'est cette plante-là, on appelle ça du pied d'ours. Donc là, il y a aussi cette allusion-là. Et cette initiale est a priori un J. Bon, il y a eu, encore une fois, la famille s'appelle Juvenel des Ursins. Alors, est-ce que c'est ce J-là ? Est-ce que c'est un J qui correspond à l'initiale du prénom d'un des membres de la famille, qui est donc la famille de son initiale, avec les ours ? On comprend de quelle famille il s'agit. Enfin, voilà, donc vous voyez comment tout ça fonctionne. Comment est-ce qu'on appelle cette propension qu'il y a au Moyen-Âge, par exemple, sur une tapisserie telle que celle-ci, à placer des éléments comme ça, des ours qui veulent parler d'un nom, des lettres qui veulent parler d'un prénom peut-être, ou d'un nom, des fleurs qui évoquent quelque chose au-delà de leur matérialité végétale. On appelle ça comment ? Cette idée qui est... Parce qu'une tapisserie que vous avez mentionnée est complètement abstraite, hein, finalement. Bon, à part que ça représente des ours, mais ces ours sont sur des petits îlots qui n'ont rien de réel, si vous voulez. Hein. On a là quelque chose d'assez abstrait. On a une série d'éléments qui sont des éléments que j'appellerais symboliques. Hein. Des pieds d'ours, des initiales, des bandes, et des ours sur des petits îlots. Tout ça n'est pas la représentation d'une scène réaliste, si j'ose dire. C'est une série de symboles. Et on appelle ça comment ? Cet art qui est très goûté à la fin du Moyen-Âge, dans les milieux intellectuels, qui a pour but d'aligner toute une série d'éléments symboliques. On pourrait dire ça.
Est-ce qu'on peut se permettre une grosse plaisanterie ?
Allez-y. Il y a des gens qui ne s'y refusent pas ici. Hein.
C'est peut-être l'origine du cirque Bourguignon.
Ah, peut-être. Peut-être.
Oui, il y a une tache derrière. Oui, c'est ça, les rayures, ça fait penser au cirque.
Oui, oui, les rayures font penser au cirque, effectivement. On appelle ça l'emblématique. L'emblématique, hein. C'est un des emblèmes. L'emblématique, c'est quelque chose qui a pour but, à travers des signes, de dire des choses. Là, l'idée, c'est pas de mettre Juvenel des Ursins, ni de raconter l'histoire, c'est d'évoquer cette famille par des emblèmes. Quand on ne les connaît pas, ben, on voit des ours, et puis voilà. Hein. Mais si on va un peu plus loin, comme on vient de le faire là, car ce qu'on vient de faire, c'est ce que faisaient les gens du Moyen-Âge quand ils passaient devant ces tentures. Hein. C'est de se dire, bah, tiens, il y a des ours, ça aura un sens. Ah, il y a des J, ça va vouloir dire quelque chose. Voilà. C'est autant d'emblèmes plus ou moins symboliques et plus ou moins simples et claires, qui permettent de définir une famille, un commanditaire, etc. Bien. Alors, maintenant qu'on a vu ces deux pièces, hein, je vous passe l'autre qui est vraisemblablement donc un fragment d'une tapisserie plus importante, dont il ne reste plus que cet élément-là.
Pourquoi
Je vois pas de raison particulière. En tout cas, j'ai rien lu dans mes recherches qui permet de comprendre. On l'a dit, hein, les ours sont souvent vus au Moyen-Âge, notamment parce qu'ils sont montrés dans des voies. On voit des ours enchaînés dans la rue. Hein, voilà. C'était une manière aussi de, comment dire, de montrer le côté policé de la famille, qui n'est pas sauvage, vous voyez, qui l'est un peu, sont des ours, mais c'est une sauvagerie qui est, comment dire, de la tenue, en quelque sorte. Hein, voilà. Donc c'est peut-être ça. Mais voilà, je crois que c'est aussi une manière de montrer comment on voit les ours à l'époque. Hein, on les voit sur les foires, sur les marchés, dans la rue, en général. Bien. Alors, ça c'était pour nous mettre un peu en forme. Hein. On va parler de tapisserie médiévale, il faut bien qu'on commence. J'ai tenu à le faire dans cette tapisserie que je trouve charmante pour ma part, ces petits ours. Oui, vraiment assez délicieux. Maintenant, je vous ai préparé une série d'une quinzaine, une tenture d'une quinzaine de tapisseries, mais qui n'ont rien à voir entre elles, qui vont nous permettre justement de plonger dans cet art de la tapisserie médiévale, 14, 15, tout début du 16e siècle aussi, et d'évoquer à la fois la question des sujets, mais la question aussi du mode de représentation. On va essayer de voir quels sont les sujets. Quelquefois, je ne vous demanderai pas de voir quel est le sujet précis, mais quel est le type de sujet. Parce qu'il y a des sujets, vraiment, qui sont très compliqués à connaître. Hein. Par contre, on peut, à travers la représentation, deviner de quel type de sujet il s'agit. Hein. Et puis, on verra que le voit aussi comment on a représenté ça, quels ont été les modes pour figurer le sujet en question. Allez, on commence par une première tapisserie que voilà. Alors,
c'est historique.
Alors, effectivement, c'est une tapisserie qu'on pourrait qualifier d'historique, c'est-à-dire que ça représente des faits historiques.
Un massacre.
Des têtes. Ici, là, non, c'est pas des têtes.
Il y a un cercueil.
Mais bel et bien, il y a un cercueil. Il y en a même deux. Vous voyez, ici et là, deux cercueils côte à côte.
Et puis, il y a un corps au-dessus, un corps d'un ecclésiastique
sur le dé.
Et ici, là, oui.
Il n'y a pas Dieu, il y a un Christ là-haut.
Il y a, oui, c'est peut-être le Christ qui apparaît avec l'orbe. Oui.
Oui.
Plus que Dieu, hein, parce qu'il a l'air assez juvénile. Ouais. Ouais. Alors, ça vous suggère quoi? C'est une histoire qui est représentée.
C'est un enterrement.
Un enterrement?
Ou alors, non.
Pardon? Deux épisodes. Alors ça, c'est très important. Il y a deux épisodes. Hein. C'est-à-dire que vous voyez là deux épisodes. Il y a un épisode à gauche, un épisode à droite. Ça, pour ce qui concerne les modes de représentation, on a dit qu'on s'intéressait à la représentation, l'histoire, au sujet, mais également au mode de représentation. Au niveau du mode de représentation, très important, vous voyez ici qu'il y a deux épisodes, un à gauche, un à droite. Et les deux sont séparés par l'arbre central qui permet de faire la différence entre l'épisode de droite et l'épisode de gauche. C'est un peu comme une bande dessinée, si vous voulez. C'est vraiment ça. Il y a deux épisodes. Bien. Et vous voyez que l'arbre au centre sert en plus à autre chose.
Il y a un blason.
Est accroché sur cette arbre central qui coupe la scène en deux scènes, en fait. Hein, un blason qui nous permet de comprendre que nous avons là affaire à un commanditaire, dont je ne sais pas qui c'est, d'ailleurs, je n'ai pas vu. Dont le blason est là. Bien. Alors, ces deux scènes disent quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la scène de gauche?
Il y a des petits bêtes, c'est la mort. On dirait
que
c'est ou l'inhumation.
Le roi est mort, vive le roi. Donc, il y a un roi qu'on enterre à gauche, ça.
Moi, je pensais que c'est le contraire.
On relève un corps.
Oui, parce qu'il y a plein de cailloux, comme si on voulait les enlever.
Dans un cas, on enterre, dans l'autre, on relève, c'est ça? Parce que vous disiez aussi, là, je crois que c'est pas chouette, que là, celle-là irait avant celle-là.
Ah, non, oui,
on aurait ça. On amène le corps et là on l'enterre, c'est ça?
Non. Le mort, le défunt est également sur le dé là-bas.
Donc autrement dit, celui qui est là est le même que celui qui est là. Là-haut, je ne suis pas assez grand. Hein. C'est ça que vous dites?
Oui.
D'accord?
Ça peut être la translation des restes d'un saint ou d'un saint. Et puis, hop, on l'enlève et puis on va emmener ses restes.
D'accord, donc il ne s'agirait pas de l'enterrement d'un saint que là, on amène à son enterrement et que là, on enterre. Il s'agirait de l'inverse, donc on les laisse ça de gauche à droite. C'est-à-dire qu'on exhume les restes d'un saint et on l'emmène. Pourquoi?
Comment dirais-je?
Pardon?
Il y a un couple
à quel endroit?
Non, il y a un squelette et puis il y a quelqu'un dans...
Il y a effectivement un squelette derrière. On voit une autre tombe avec un squelette.
Mais quelqu'un bien en chair, donc on l'a conservé miraculeusement.
Alors, oui, c'est ce qu'on... Enfin, moi, je voyais ça comme un saint, la transition d'un saint.
C'est ça. Donc, alors, vous avez raison, on a effectivement là, d'un côté, l'exhumation d'un saint. Il est saint, son corps n'est pas corrompu. Or qu'à côté, manifestement, il y en a un qui n'est pas saint, son corps est corrompu. Hein. Et effectivement, tout autour, ce qu'on prenait effectivement pour des crânes tout à l'heure, c'est en fait des mottes de terre. Quoi, hein. On est en train d'exhumer, on exhume le saint qui est intact. Voilà. Et donc vous avez la scène de l'exhumation à gauche, et vous voyez, tout le monde est surpris. Hein. Le corps est intact, en quelque sorte. Hein. Et à droite, on emmène ce corps intact. Pourquoi on l'emmène?
Dans une église,
pourquoi faire?
Pour en faire une basilique, un lieu de pèlerinage.
Voilà, pour en faire un lieu de pèlerinage, pour faire de ce corps une relique, si vous voulez. Hein, un lieu de pèlerinage. Ok. Comment est-ce que cette scène qu'on a reconstituée en la regardant, comment est-ce qu'on peut aussi mieux la comprendre?
Il y a des textes.
Il y a des textes, vous voyez qu'en dessous, il y a les bulles de la bande dessinée. Hein. Il y a des textes. Ça, c'est très important. En Moyen-Âge, vous avez très souvent ça. Hein. Vous avez l'image, mais le texte, le commentaire de l'image. D'accord ? Bien. Parfait. Deuxième cas.
Toujours la même couleur de fond.
Oui, le rouge est souvent utilisé.
Deux anges qui tiennent une couronne.
C'est du Bursa.
C'est du Bursa.
Oui, ça pourrait être
un morceau de tapisserie...
Donc ce serait peut-être un élément d'une tapisserie.
Oui.
Et qu'est-ce qui manquerait alors?
La personne en dessous.
Donc il manquerait en dessous la représentation de la personne en train de se faire couronner. Donc on aurait là un fragment d'une pièce qui représenterait le couronnement de quelqu'un, et le quelqu'un qu'on est en train de couronner, il n'est plus là parce qu'on a coupé la tapisserie. Okay. Ça, c'est effectivement... une possibilité, parce qu'on a vu tout à l'heure que les tapisseries médiévales, souvent, étaient coupées. Très bien. Alors, il y a peut-être une autre possibilité.
Ça peut être sur un autre.
Il y aurait une autre tapisserie.
Une tapisserie qui se met au-dessus d'un trône.
Une autre tapisserie
qui se met au-dessus d'un trône pour évoquer un couronnement.
Oui. Donc, autrement dit, ça, ce serait une tapisserie qui serait faite pour être mise au-dessus d'un trône, pour éviter le couronnement d'une personne bien réelle, par contre, qui sera en dessous. Hein.
Oui.
C'est ça. Et ce que vous avez là, c'est effectivement un dé qui était fait pour être au-dessus du roi de France, en plus. Hein. C'est une tapisserie, vous la connaissez peut-être, hein. C'est une tapisserie qui a été acquise par le Louvre il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas du tout connue d'ailleurs, et qui a surgi récemment d'une collection privée, et qui est tout simplement le dé, je crois que c'est Charles VII, ou Charles VIII, je crois que c'est Charles VII, et donc effectivement le roi lui-même était fait pour être en dessous. Qu'est-ce qui montre d'ailleurs qu'on est là devant une tapisserie liée au roi de France? Alors les fleurs de lys sur la croix.
Et les anges aussi, ils ont une robe avec
sur les fleurs de lys.
Les anges ont des robes convenables, on va dire.
Oui, mais à fleurs de lys aussi.
Il y a fleurs de lys.
Oui.
Voilà, on voit bien.
Sur les manches.
Sur les manches, on les voit bien. Et puis.
Le roi soleil.
Le soleil. Ben, le roi soleil, c'est non, pas
c'est
tout
un peu
plus
tard. C'est
un peu mais il y a quand même des soleils. Hein. Ça veut dire quoi, ça?
Il est quand même bien le soleil.
Pardon ?
Il est très curieux, ce soleil.
Ah, ben, il y a un gros soleil, puis des petits soleils, des bébés soleils.
C'est des étincelles.
Oui. Mais alors, qu'est-ce qui fait que on parle au XVIIe siècle du roi soleil ? Ça, c'est établi, ça date du XVe siècle. Bon. Mais alors, pourquoi ? Moi, je ne comprends plus la chronologie, là.
C'est parce que le soleil représente Dieu. C'est la lumière et Dieu qui... Parce que c'est un roi divin. Donc, oui. Pour être roi, il faut qu'il soit de droit divin, et donc ça représente Dieu.
Donc le soleil serait une évocation divine, oui. Mais qui se confondrait avec la figure du roi, d'une certaine manière. Oui. Bon. Ben, c'est assez juste. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, déjà, en France, l'emblème du roi, c'est le soleil. Donc, en fait, ici, puisqu'on couronne effectivement le roi, qui était en chair en os en dessous, vous avez là l'emblème du roi, qui est aussi le soleil. En fait, le roi soleil ne fait au XVIIe siècle que confirmer quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles. Il le confirme avec une... On en faisant une publicité que vous connaissez. Hein. Mais dès avant le XVIIe siècle, le roi et le soleil, ben voilà, il est chez lui, là, si j'ose dire. Très bien.
Un événement.
Alors, on n'est pas obligé de regarder toutes les figures parce qu'on n'en finirait pas. Mais qu'est-ce que vous voyez en gros comme élément de la composition? Alors, il y a des châteaux, ok.
Des étendards, des soldats.
Ouais. Des soldats, très bien. Le mont des Oliviers.
Non.
Regardons déjà de près ce que ça... Enfin, de près. Regardons les ensembles, les éléments qui composent cette ensemble.
Au milieu, il y a un groupe qui arrive en bateau.
Au milieu, effectivement, vous voyez un bateau avec de l'eau, hein. Et un groupe de soldats qui arrivent en bateau. Très bien.
Il y a de l'eau aussi au-dessus.
Sur la droite.
Il y a quelqu'un qui est accueilli par d'autres, par une foule.
Voilà, sur la droite, on voit en effet un personnage qui en accueille un autre.
Oui.
D'accord.
Et il y a des fleurs de lys encore dans ce
côté. Il y a des fleurs de lys. Elles sont où ?
Sur le costume à droite, non ?
Non, j'en vois pas, mais les fleurs de lys, quelquefois quand on ne sait pas quoi faire, on met quelques fleurs de lys, ça fait toujours bien. Là, j'en vois pas, mais il y en a peut-être, il y a tellement de choses. Donc, au centre, on a effectivement un bateau qui accoste, du bateau sortent des gens, dont un personnage qui est accueilli par un autre pour aller où ?
Dans un château
qui est sur la droite, avec une partie de ses habitants devant. Très bien. Donc ça, c'est au centre et à droite. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ?
À gauche,
il y a Bernard tout seul. OK.
Avec des animaux aussi.
Avec des animaux.
À ses pieds,
il y a effectivement des animaux, mais pas qu'à ses pieds. Hein. On a juste tout ce côté-là. Hein. Vous voyez quoi parmi les animaux ?
Lapin.
Chien.
C'est
un chien.
Un chien.
Là, il y a des lapins. Là, qu'est-ce que vous voyez ?
Un renard.
Qui tient dans sa gueule un autre animal.
Peut-être quoi ? Un agneau.
Un loup, alors.
C'est pas sûr, un loup. Le loup et l'agneau. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre pour terminer la description des grands éléments qui composent cette... Alors, il y a un château en haut, OK. Et puis encore...
Il y a une armée,
au fond, avec les étendards et tout ça.
Oui, alors, elle fait partie de ces bateaux, parce qu'il y a un bateau, mais il y a un autre bateau. Il y a des bateaux qui arrivent. Il y a une flotte, si vous voulez. Mais il y a encore un élément dont vous avez parlé pour la tapisserie précédente, mais on ne parlait pas ici.
C'est écrit au-dessus.
Voilà, au-dessus, il y a la légende. La légende qui nous dit, puisque nous sommes au Moyen-Âge, qui nous dit ce qui se passe. Parce qu'on est au Moyen-Âge, comme vous et moi, quand on regarde ça, on n'est pas obligé de savoir de quoi il est question.
Il manque un morceau à droite, non ?
Le texte est en partie coupé, donc manifestement, on n'a là qu'un morceau d'une tapisserie plus complète. Bien. À votre avis, sans dire l'histoire que vous ne connaissez pas, d'ailleurs moi-même je ne me rappelle plus très bien cette histoire. En gros, qu'est-ce que ça peut évoquer? Qu'est-ce que veulent dire les différents éléments qu'on a vus?
Un retour de guerre.
Avec, il est bien accueilli.
Il est bien accueilli.
Il a peut-être gagné. Il revient peut-être des croisades avec les bateaux.
Peut-être quelqu'un qui revient des croisades et qui est donc accueilli en vainqueur.
À gauche, c'est quoi?
Un ermite qui est tout seul et qui... Voilà.
Il est bien portant.
Oui, un ermite. Oh, bah, quelquefois, on a des corbeaux dans un ermite qui vous alimente. Vous avez du pain, des saucisses. On peut avoir un petit ventre quand on est un ermite parfois. Et les animaux devant, c'est pour faire joli.
C'est la campagne.
Ah, le côté bucolique.
Un territoire.
C'est une personne qui sait parler aux animaux, puisque les animaux sont contents autour de lui.
Ouais. D'où le côté ermite. Cette scène que vous voyez là, par rapport aux autres tapisseries qu'on a vues précédemment, vous la classeriez dans quoi? Sur le plan de son sujet. Hein.
L'histoire.
Alors, l'histoire, c'est un fait historique. Vous parliez de croisade, etc. Parce que l'histoire, il y a deux choses. Soit c'est un fait d'histoire, hein, c'est-à-dire un moment, l'histoire de France, par exemple, le célèbre hein, qui est présenté. Mais quand on dit l'histoire, ça peut être une histoire.
Une légende.
Vous voyez quoi, alors, là, plutôt?
Une histoire.
Plutôt une histoire, c'est-à-dire une légende, un moment d'histoire, oui.
Une histoire embellie.
Quand on dit une histoire embellie, c'est un moment de la grande histoire qui est embellie, ou une histoire qui est un peu...
Une mythologie, un mythe.
Un mythe. Oui, donc plutôt quelque chose qui est du... Donc ce serait pour vous un fait historique un peu arrangé qui est présenté là. Ok. Donc il y a un peu deux choses. Hein. Soit c'est une histoire, un conte. Comment est-ce qu'on peut appeler d'ailleurs ça au Moyen-Âge? Il y a un mot qui est souvent évoqué au Moyen-Âge pour parler de ces grandes histoires.
Une épopée.
Oui. Une fable. Le fabliau parfois. Mais il y a un mot également qui évoque ces grandes histoires qui souvent n'en finissent pas, qui étaient souvent dites par les trouvères. Un geste. Donc effectivement, ça, c'est la présentation d'une partie d'une geste. On dit la geste. Effectivement. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça geste, mais je me demande si ça ne vient pas du fait, effectivement, que les troubadours qui disaient ça, hein, voilà, mimaient en même temps. Hein, c'était pas. Alors voilà, je vous raconte l'histoire du bidule qui. On faisait ça et qu'on mimait un monstre, la flotte qui arrivait, l'ermite dans la forêt, les gens qui arrivent au château. Le troubadour, il mimait tout ça, hein, en parlant, en chantant, en s'aidant de notre musique. C'est vraiment une gestuelle. Hein, c'est un moment théâtral. Là, c'est effectivement la présentation, non pas d'un fait historique, mais d'une geste. Alors, je vais vous dire laquelle, parce que vous ne pouvez pas le deviner. Hein. C'est une geste qu'on appelle la geste de Jourdain de Blaye.
Voilà.
Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. Alors, j'ai oublié de le faire avant de venir.
C'est en Gironde.
Blaye, c'est la ville du sud-ouest de la France que vous connaissez. Alors, je ne me rappelle plus précisément l'histoire, parce qu'elle est passablement compliquée. Mais chez elle, ça n'en finit pas, il y a des choses dans tous les sens. Grosso modo, hein, c'est l'histoire d'un personnage qui va être trahi par un autre, si vous voulez. Et justement, là, vous avez un moment de ça, c'est-à-dire qu'un personnage arrive, et il est accueilli, et de manière très amicale, et ce personnage-là, Simon Herbert, va trahir ce personnage-là. Ils sont très amis, etc., comme ça, a priori. Hein. Le deuxième accueille le premier de manière très amicale. Or, le premier va éliminer le deuxième, justement. Si vous voulez, c'est une sorte de trahison, la geste de Jourdain de Blaye. D'ailleurs, on a vu dans ce groupe-là, quelque chose qui, dans cette scène, préfigurait la trahison. Hein, l'innocent agneau qui est mangé par le méchant loup. Vous voyez ? Qui est une sorte de réplique avant-coureuse, animale, de la scène qui se passe à côté et qui va plus tard, enfin qui nous annonce qu'il va passer plus tard.
Donc il l'emmène
dans le personnage en blanc. Oui.
Le personnage en blanc, il y a beaucoup de personnages en blanc.
Mais qui est dans le bateau.
Celui-là, ben, c'est un personnage en blanc, centre du bateau.
Voilà. C'est
facile. Et c'est
bien un ermite. Oui,
c'est facile. Pardon. C'est bien un ermite à gauche.
Alors voilà, cet ermite à gauche, est-ce que c'est vraiment un ermite ?
Non.
Peut-être
pas moine.
Alors, on pourrait penser à un moine, il n'a pas vraiment un habit de moine, il n'a pas non plus le ventre d'un... Je sais bien qu'il y a des moines un peu le ventre, hein. Mais il n'a pas la touche d'un moine, si j'ose dire.
On dirait qu'il prévoit ce qui va se passer. Parce qu'il a vraiment un visage...
Et ça veut dire que c'est qui, justement ? Parce qu'effectivement, il, vous voyez qu'il a la bouche ouverte, qu'il a les mains...
C'est le compteur.
C'est le narrateur. C'est le compteur, effectivement. Celui que vous avez à gauche, c'est le narrateur, c'est le compteur. C'est celui qui dit ce qui se passe à droite. Ça, c'est une chose que vous avez souvent au Moyen-Âge. Vous avez le narrateur qui est représenté et qui dit ce qui se passe plus tard.
D'accord.
D'accord ? Bien. On continue. C'est la première séance, oui.
C'est
la première séance. Alors, on a décidé d'être cool dans cette séance.
Ouais. Hein. C'est la bonne.
Oui, c'est la bonne. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est la bonne ?
Eh ben, les... la tour et la clé.
Et c'est quoi ça ?
Les armoiries.
On a trouvé un autre mot tout à l'heure.
Des emblèmes.
De qui ?
De Guigonne de Salins. Guigonne de Salins, c'est la tour. Et puis la clé, c'est Nicolas Rollin.
Voilà. Donc on a à l'arrière les emblèmes de Guigonne de Salins et Nicolas Rollin. Ce genre d'organisation, ça d'emblèmes posés côte à côte, ça vous rappelle quelque chose qu'on a déjà vu ?
La première.
Rappelez-vous les ours, avec les pieds d'ours entre. Une espèce de dimension répétitive très équivalente. On a une espèce de volonté comme ça de tapisser d'emblématique le fond de manière très très géométrique. Et alors au centre.
L'agneau Pascal.
Oui, l'agneau Pascal.
Sacrifice.
Oui.
L'agneau du sacrifice.
Vous en dites, c'est quel agneau ?
C'est Jésus.
Oui, donc on
dit c'est.
L'agneau Dei. Donc c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, tout simplement. Pas l'agneau Pascal, hein, qui serait pas comme ça. Donc c'est l'agneau de Dieu avec. Qu'est-ce qui donne, enfin montre que c'est l'agneau de Dieu ? Alors, il a effectivement une auréole.
Le calice.
Il y a le calice. Le calice, il est alimenté par quoi ?
Par son sang.
Par son sang qui sort, bien. Voilà, c'est l'évocation de Jésus.
La croix.
Il y a la couronne. Avec les clous. Et puis là, il y a la bannière. Vous savez que Jésus porte souvent, notamment au moment de la résurrection, en la laissant pour limbe après. Après sa résurrection, descend dans les enfers, dans les limbes, notamment pour aller en chercher Adam et Ève. On voit porter cette oriflamme-là.
Et pourquoi il regarde en arrière ?
Il regarde en arrière parce que. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison. Oui.
Mais souvent, on représentait la tête comme ça.
Pardon ?
Il est souvent représenté avec la tête.
Oui. Je pense que c'est
une question d'équilibre.
Oui, c'est ça. Puis, là, en l'occurrence, il regarde la croix, les instruments de la passion.
Et ça permet d'avoir une ligne des clés, etc.
Oui, voilà. Pourquoi quoi ?
L'hymne
soleil, ça c'est toujours. Hein. Dans les représentations de la crucifixion, généralement, il y a l'hymne soleil qui sont présents.
La lune, c'est Marie.
C'est pareil, la lune vient de très loin, si j'ose dire. Hein. Elle vient de la mythologie gréco-romaine. La lune, c'est Diane, le soleil, c'est Apollon. Hein. Vous savez qu'il y a toute une série de... Il y a un tuilage entre la mythologie gréco-romaine et la religion chrétienne. Et donc, on y voit quelque part une sorte de reprise de ces éléments-là. Hein. Et puis, de toute façon, la lune et le soleil, c'est quelque part le jour et la nuit, donc c'est la totalité du temps, quoi. Et donc, en quelque sorte, c'est le cosmos, effectivement. Donc, c'est quelque part ce qui résume Dieu, qui est surtout. Et donc, c'est une manière de dire l'univers entier par deux astres.
Hein. C'est un mode universel.
C'est ça.
La laine du mouton est mitée, non ?
C'est effectivement un objet qui est... D'ailleurs, cet objet-là, il servait à quoi ?
Un devant d'hôtel ?
Oui, c'est vraisemblable. Un devant d'hôtel, ça s'appelle comment ? Il y a un devant d'hôtel. Ça s'appelle un antépendium. On mettait devant les hôtels. Alors, ça peut être un gros hôtel, mais ça peut être aussi autre chose. Quelquefois, ce genre d'épicerie très en longueur, parce que là, c'est sa forme, hein. Ça n'a pas été découpé, etc. C'était comme ça dès le Moyen-Âge. Hein. Ça peut servir à autre chose aussi. Pardon ? Pas trop, c'est vrai qu'on voit bien, mais non, parce que sur un tombeau, assez vite, ça aurait été abîmé, si vous voulez. C'est quand même fragile.
Une litre
ouais. Funéraire. Non, les litres funéraires sont des choses que l'on mettait. Quand on enterrait quelqu'un dans une église, on mettait tout le long de l'église, qu'il fallait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, une sorte de bandeau noir de cette épaisseur-là, à peu près, qui faisait tout le tour de l'édifice et qui signalait que quelqu'un était enterré dedans. Et on mettait sur la litre, on appelle ça une litre funéraire, hein, des blasons qui permettaient d'identifier ceux qui étaient enterrés dans l'église.
Il y a ça rosé.
Par exemple. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pas une litre. D'ailleurs, c'est pas très funéraire, enfin.
Non, c'est vrai.
Non, mais c'est quelque chose qui pouvait être utilisé comme retable. Ça peut être ça, hein. Devant l'hôtel, si vous voulez, en antépendium, vous pouvez mettre ça également comme retable. Hein, c'est-à-dire là, derrière l'hôtel, si vous voulez. Certains de ces éléments-là, à Bourg, notamment, étaient aussi utilisés, parce qu'on a une à peu près du même genre, qui était, si ma mémoire est bonne, utilisée comme nappe d'hôtel. Vous voyez ce genre de tapisserie tout en longueur, pas immense, hein, était faite pour ça. Allez.
Alors, c'est une
fontaine. Alors, il y a une fontaine, oui.
C'est Narcisse.
Narcisse,
oui.
C'est-à-dire.
Narcisse
qui se reflète dans l'eau. Vous me racontez l'histoire ?
Il est tombé amoureux de son image.
Voilà, Narcisse, effectivement. Mais Narcisse, c'est qui, c'est quand, c'est quoi ?
C'est l'Antiquité.
C'est l'Antiquité. Hein. C'est effectivement une figure de l'Antiquité. Et sa légende nous dit qu'un jour, il se trouvait très beau. Hein, et un jour, bah, il s'est regardé dans l'eau. Et qu'est-ce qui est arrivé ?
Il s'est noyé.
Alors oui, et puis surtout ?
Il était amoureux.
Elle était amoureuse de lui-même, oui.
Oui.
D'où vient l'expression narcissisme.
Oui, voilà.
Et puis, surtout, eh bien, il s'est songé en fleurs.
Ah oui, Narcisse.
Donc, vous avez là, effectivement, la représentation du mythe de Narcisse. Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à tout ce qu'on a vu avant ?
C'est très beau.
C'est très bon.
J'aime
beaucoup ça.
Très chargé.
Vous avez utilisé un mot tout à l'heure pour parler du fond. Voilà, c'est ce qu'on appelle un mille fleurs, effectivement. C'est-à-dire que vous avez tout autour un décor végétal extrêmement couvrant, avec plein d'animaux, une civette, un faisan.
Ils sont super beaux. Les
c'est très beau. Ah, ouais, c'est très beau. J'aime beaucoup
ça. Super réaliste.
Ouais.
Très
beau.
Très
joli. Oui, sûrement. Et donc, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport au thème qu'on a vu précédemment ?
Il y a une belette. Ben, on retourne à l'Antiquité.
On retourne à l'Antiquité. Parce que ce qu'on a vu jusque-là, la geste de Jourdain de Blaye, c'est une scène tirée d'une geste médiévale. Hein. On a vu des thèmes très religieux, très chrétiens. Hein. Là, on retourne effectivement vers la mythologie gréco-romaine. Il ne faut pas oublier que le Moyen-Âge a beaucoup travaillé, illustré, regardé du côté de ça. Hein. Souvent, on fait une grande césure entre le Moyen-Âge et l'Antiquité, mais ce n'est pas très juste. Hein. La preuve, à la fin du Moyen-Âge, bon là, on flirte avec la Renaissance, hein, on a vraiment des grands thèmes antiques qui sont repris.
Mais au point de vue technique, ça doit être terrible. Hein,
Ah ben oui.
Il y a même des herbes qui poussent au pied de de La Fontaine.
Oui, c'est super dimension,
c'est quoi? Oh, ça c'est une pièce qui doit faire à peu près 4 mètres de long, à peu près. Hein, c'est à peu près 4 mètres sur 4, 4, 5. Hein, je n'ai pas les dimensions précises, mais c'est de cet ordre-là.
Et ça se trouve où?
Aujourd'hui, alors vous verrez tout à l'heure ce que je vous donnerai les... Là, aujourd'hui, cette tapisserie appartient aux collections du musée des Beaux-Arts de Boston, aux États-Unis. Alors là, on connaît, c'est la Dame à l'écorce. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas dire grand-chose. Parce que ça représente quoi? À part une dame et une corne.
L'essence.
Elle est reflète dans le miroir.
Oui. Elle représente l'essence, c'est une tenture.
Oui.
Exact. Alors, c'est une tenture.
Il y en a plusieurs.
Voilà. Voilà. C'est ça. C'est une tapisserie qui appartient à une tenture. Absolument.
On trouve le même îlot.
Pardon. Oui, exactement. On trouvait le même îlot que nos nounours de tout à l'heure. Vous rappelez? On trouvait la même civette que dans le Narcisse d'avant.
Oui, et puis des arbres aussi.
Des arbres, voilà. On trouve effectivement le même genre d'îlot. Et alors, on a, c'est un millefleur aussi, mais là sur fond rouge. C'est quoi ce lion, cette licorne, ces autres animaux?
C'est un animal mythologique, mais je ne me rappelle plus le symbole.
C'est la pureté.
La pureté, d'accord, effectivement.
La pureté et la force.
La pureté et la force, effectivement, parce que le lion, c'est la force. Donc on a là, effectivement, deux éléments, deux...
Deux emblèmes.
Deux emblèmes. La licorne et le lion, qui suggèrent, effectivement... Les qualités de qui? Oui, de la dame peut-être, mais pas ricochet. De la famille, quelle famille?
Avec trois lunes, là.
Oui,
celui qui a demandé la tapisserie.
Voilà, c'est ça, la famille qui a fait réaliser la tapisserie, dont on voit les armes, là, c'est trois croissants. Hein. En l'occurrence, on sait quelle est la famille. Hein. C'est une famille qui s'appelle la famille Leviste, qui est une famille qui a résidé à Lyon, à l'extrême fin 15e, tout début 16e, et cette tapisserie est datable autour de 1500, justement. On est à l'extrême fin du Moyen-Âge. Hein. Très bien. Et bien, alors, vous avez dit autre chose tout à l'heure, vous avez dit que ça faisait effectivement partie d'une tenture, et vous avez dit là, quel était le sujet, au-delà de ce qu'on vient de dire, hein, une tenture avec des emblèmes qui évoquent la pureté, la force d'une famille, celle des Levistes, le tout dans un paysage bucolique, un peu imaginaire, au milieu d'un mille fleurs. Mais il y a en plus la représentation d'autres choses.
L'essence.
Voilà, l'essence. Et là, c'est lequel?
La vue.
La vue. Parce que, qu'est-ce qu'on voit?
Le miroir.
Voilà, hein, on voit la femme qui, effectivement, reflète l'image de la licorne dans le miroir. Donc c'est l'évocation de la vue. Autrement dit, les autres tapisseries de la tenture.
On a le
goût. Ah, c'est le goût. L'odorat. Le toucher.
Louis.
Voilà. Très bien. Parfait. Oui, effectivement, on a l'impression que c'est de nuit. En tout cas, le fond est sombre.
Ça fait presque estampe.
Oui, ça fait penser à une estampe, mais c'est une tapisserie.
C'est tellement le paysage. C'est l'amour courtois.
Ah, c'est l'amour courtois, effectivement. Oui, c'est une tapisserie qui incarne vraiment l'idée de l'amour courtois. Qu'est-ce qui se passe?
Il fait sa déclaration.
Pardon?
Bah, il lui offre une petite fraise.
Il lui offre une fraise.
Une fraise qui ressemble à son cœur.
Voilà.
Son
coeur, ouais. Il lui offre un cœur.
Il ramène sa fraise.
L'expression vient de là, sans doute. Il ramène sa fraise. Voilà, c'est effectivement un homme qui amène son cœur à une dame. Vous avez raison, c'est absolument typique de ce qu'on appelle l'amour courtois. Il y a d'autres choses aussi.
Il y a le chien en bas.
Absolument. Il y a le chien de la fidélité. Hein. Vous savez que le chien, c'est l'animal fidèle entre tous.
L'oiseau de proie.
Il y a l'oiseau de proie. Et pourquoi?
Alors c'est quoi comme on aime
Elle porte un oiseau de bois, vous voyez, sur un gant. Sa main droite n'est pas gantée, celle de gauche. Heureusement, parce que c'est un faucon, un rapace. Qui sert à quoi?
À la chasse.
Donc ça montre quoi, ça?
partie de chasse.
Ils ont le droit de chasse.
Elle était en chasse de quelque chose.
C'est que
des nobles.
Pardon. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une manière de montrer effectivement qu'on n'est pas n'importe où, si vous voulez. Hein. On situe cette scène à un niveau social que, d'ailleurs, les habits des protagonistes montrent aussi. Hein. Il y a donc une dimension, de situation sociale. C'est la question. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ?
Il y a toujours des animaux, des lapins.
Il y a des lapins, et pourquoi ?
La chasse ?
Alors, c'est effectivement peut-être une proie.
Oh, c'est plutôt la fécondité, non ?
Oui, parce que quel est le lien entre le lapin et la fécondité ? Les lapins et les lapines, ça produit. Mais vous savez comment on appelle le lapin au Moyen-Âge ? On l'appelle le conin.
Oui, mais il
n'en a qu'un. Eh oui, ce qui est un nom qui nous en rappelle un autre. On l'appelle le conin ou le con. Je crois que vous aurez compris l'allusion. Et donc, effectivement, les lapins sont souvent présentés pour évoquer cette idée-là, qui est l'idée de la prospérité, de l'enfoncement, etc. Donc, les lapins ne sont pas simplement là, pas plus là que dans la Dame à licorne, hein, pour faire joli, parce que c'est mignon un lapin, c'est aussi cette évocation-là.
C'est une. On dirait du flou avec les arbres au-dessus.
C'est un. J'allais dire un style, effectivement. C'est un, j'allais dire une technique de la tapisserie, effectivement, qui. Il y a des étoffes qui sont.
C'est
oui, absolument. Ouais. Très beau, ça. Une belle chose, hein.
Le travail.
Et ça. Bien
un métier.
Oui, là on est vraiment devant un fragment. Hein.
Qu'est-ce qu'elle est chez elle?
Mais
qu'est-ce qu'elle fait?
Elle est chez elle.
Elle fait de la tapisserie.
Elle fait de la tapisserie.
C'est-à-dire qu'elle coule.
C'est quoi ça? Donc c'est un fragment, je suis d'accord avec vous, un fragment bien abîmé. Hein.
Bien abîmé, oui.
En tout cas, c'est jamais aussi.
Donc c'est une dame qui coud, qui fait de la tapisserie.
Elle est comme Pénélope, elle attend son mari quand il fait les
guerres. Exactement.
C'est ça.
Non seulement elle est comme, mais
elle coud, elle découvre.
C'est raison.
C'est pour ça.
C'est mais pardon.
On voit une toile qui est faite et une qui est défaite à rien.
Oui, bah oui, c'est ça. Voilà, là il y a ce qui est fait, elle est en train de faire, ça sort sur le côté, mais elle va défaire pour refaire.
Elle fait marche arrière.
C'est Pénélope. Donc là aussi, qu'est-ce que ça vous suggère par rapport à deux choses qu'on a dites précédemment?
Retour à l'antiquité.
Voilà, c'est à la fois effectivement le recours à l'antiquité, et puis cette idée évidemment de la fidélité, etc. Il n'y a pas de chien, mais enfin on le devine. D'ailleurs, il y en a peut-être un dans la partie inférieure. Alors, une licorne encore, pardon. C'est un mille-fleurs. Mille-fleurs. On appelle mille-fleurs ces tapisseries où le fond est couvert de fleurs et de plantes. D'où le nom de mille-fleurs. Donc, évidemment, ça passe dans une licorne. Une licorne captive va aller dans un enclos.
Pourquoi captive ? Il y a des lettres au-dessus.
Un D.
Oui. Absolument.
Et puis il y a les mêmes plus haut à droite et à gauche.
Ouais.
Oui. Et en bas.
Et pourquoi?
C'est le monogramme de la famille.
C'est les lettres des commanditaires, le monogramme de la famille. Absolument.
Et qui c'était?
Et je crois qu'on ne sait pas pour cette tapisserie. Quelquefois. Ah, des
brèches
du rêve.
C'est compliqué. Hein.
Pourquoi elle est captive?
Ah, ben c'est la pureté qui est.
Il faut la préserver, il faut l'enfermer.
Eh oui. Parce qu'autrement, évidemment, ça.
C'est la virginité.
Tendance à se.
Eh oui, à se dé.
Dépurer.
voilà, c'est tout le problème.
La queue est super.
Oui,
ouais. Eh, c'est très très beau. Donc effectivement, la licorne, elle est captive parce que c'est un animal précieux. qui tient à la fois du cheval et de la chèvre, hein, avec sa barbiche, hein, animal précieux. Vous savez, j'ai déjà dit, éventuellement, dans d'autres polypistères, mais les cornes de licorne étaient considérées au Moyen-Âge comme permettant en particulier de convertir les boissons empoisonnées. Si vous avez peur d'être empoisonné et que vous avez chez vous une corne de licorne, il suffisait de plonger la corne de licorne dans le breuvage et il était désempoisonné.
Il faut l'avoir aussi.
Mais on en avait parce que les cornes de licorne étaient en fait des dents de narval. Vous savez,
oui,
les
narvals
ont des dents hyper tranchées. Et c'est les dents de narval qui étaient collectionnées comme étant des cornes de licorne. Donc vous aviez une dent de narval, donc une corne de licorne, parce que vous n'avez pas ces arbres, une corne de licorne. Et vous aviez comme ça un élément qui vous permettait chez vous, par quelque chose qui n'est pas empoisonné.
Un antidote, donc.
Un antidote. Voilà. Donc, si vous voulez, la licorne, c'est un animal précieux. Ah, vous savez par ailleurs comment capturer une licorne ? Il n'y a pas trop de solution. Je vous la dis entre nous, parce que ça peut être pratique.
Regardez dans les yeux.
Et très souvent, c'est présenté au Moyen-Âge. Hein.
Oui, c'est vrai.
Comment est-ce qu'on capture une licorne ?
Non.
Ah non, parce que les licornes sont d'une grande, grande énergie. Et la licorne, vous ne pouvez pas l'attraper. Il y a un seul moyen de le faire.
C'est d'être...
Non,
non, le sel sur la queue, c'est pas...
C'est d'être amoureux.
Elle est gourmande et on lui donne quelque chose.
À... Non.
Non, ça, on la regarde dans les yeux.
On lui parle.
Non.
Enfin, on la regarde dans les yeux et on lui parle et elle vient. Non.
Bon.
Eh bien, il faut mettre au milieu d'une clairière une jeune vierge, et là, la licorne viendra vers elle. Une fois que la jeune vierge a reçu la licorne qui s'est mise près d'elle et qu'on discute, là, vous pouvez la capturer. Mais c'est le seul moyen.
Pardon. Si ça marche pas, ça va mal pour la jeune.
Peut-être. Mais en général, ça marche. Oui, autrement, ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas comme ça. Et donc, voilà. Mais voilà, c'est le seul moyen de capturer une licorne. Et de très nombreuses représentations médiévales montrent ça. Hein. Donc, quelquefois, comment on tue la licorne de cette manière. D'ailleurs, je trouve ça horrible. Ouais. Et on la tire avec une jeune vierge. Et c'est l'occasion de la tuer. On voit des scènes de meurtre de licorne. Comme ça, sur les genoux d'une jeune vierge, je trouve ça épouvantable.
Ça se mange.
L'histoire ne le dit pas. Pardon.
C'est
une manière d'avoir sa corde. Mais je trouve que c'est une manière bien désagréable.
Nous, on prend bien à notre époque des ailerons de requins et de façon possible. Pareil. Hein.
C'est pas tellement mieux.
Pas tellement.
Ah,
voilà.
C'est toujours cette
peste.
Ah,
mais
c'est
toujours.
Alors.
Tremblotant.
Oui, oui. C'est en musique.
Ah oui, ça c'est quoi?
Une fait une déclaration, mais en musique.
Oui.
C'est toujours par
la partie.
Ah, il y a une musicienne.
Un serpent.
Cette main serpent.
Un serpent.
Mmh.
Où est-ce qu'on voit un serpent?
Oui, mais moi,
la main de l'homme.
Non, il a un phylactère.
Ah,
oui, avec de la musique. Elle est en train de lire et puis jouer, et non?
Alors,
il tient la
partition. Il y a deux solutions. On a l'impression que lui tient la partition pour qu'elle puisse jouer, voire chanter aussi.
Chanter, oui.
C'est l'impression qu'on a. Il tient la partition, elle joue, elle chante pour lui.
Oui.
Ça, c'est une scène qui appartient à quel répertoire par rapport à ce qu'on a vu?
L'amour courtois.
Voilà, l'amour courtois, une scène très très typique de ces scènes de l'amour courtois qu'on a vu tout à l'heure.
Et le personnage à gauche, alors?
C'est quelqu'un qui tient le
bout. Ça a l'air d'être un page.
Oui, un chaperon.
Ouais.
Ouais, ça se trouve, il tient le bout encore parce que c'est tellement long.
Oui, peut-être.
C'est un lion avec des têtes.
On dirait une hydre.
Une hydre avec plusieurs têtes. C'est un lion avec plusieurs têtes.
Un lion qui tient une fleur de lys sur un
sur un bâton, sur une hampe.
Oui. Donc il y a un lion avec plein de têtes qui tient effectivement une hampe qui se termine par une fleur de lys.
Ouais. Avec
derrière, il y a un dragon.
Il y a un dragon à plusieurs têtes.
À gauche, il y a des personnages.
À gauche, il y a des personnages.
Il y a un saint.
Il y a quand même un saint, oui, qui a une auréole.
Il y a une ébauche d'église.
Pardon ?
L'architecture, on dirait.
Oui, un saint qui a l'air d'être sur le seuil d'une église, ouais. Plus ou moins, oui.
Sur un socle.
Et des gens qui prient devant le lion.
Ouais. Et des gens qui prient devant le lion.
Sept.
Devant le lion à sept têtes.
Qui implore le lion.
Qui implore le lion.
De les sauver. De se faire manger.
Sept têtes aussi.
Sept têtes aussi. Le dragon, c'est le symbole du mal.
Ah ouais. Les têtes de lion, elles ont un petit buisson sur la tête là. Je
crois. Non, mais il y a plusieurs têtes.
Oui, une petite.
Oui, mais il y a chaque fois
une petite houppette.
Ouais. Ah, bah, faut bien le faire sa coiffure. Hein. Faut bien mettre des chouchous dedans.
Une petite houppette.
Une petite houppette. En...
Alors c'est quoi cette scène là?
Alors là.
C'est une geste.
Une geste. Donc une sorte de légende, comme on a vu la geste de Jourdain de Blaye tout à l'heure. Ce serait la légende du dragon épouvantable.
Du saint.
Oui, il y a un saint. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, le saint?
C'est peut-être sa légende, à lui.
Peut-être la légende du saint. Alors qu'est-ce qu'il aurait fait, le saint, avec la légende, là?
Il aurait abattu le dragon.
Donc c'est un saint dont on raconte ici la légende. Ce saint aurait permis de vaincre le dragon. Qui terrorisait peut-être. Ils n'ont pas l'air très terrorisés, vous allez me dire. Les personnages qui est à gauche. Non, c'est ça.
Ils sont en adoration.
Ils sont en adoration.
Ils les remercient, là.
Donc en fait, ils remercient qui?
Le lion.
Ils remercient le lion. Parce que le lion, il a fait quoi pour ces gens-là?
Il a tué le dragon.
C'est-à-dire que les gens qui sont là remercient le lion d'avoir tué le dragon.
Oui, mais pourquoi il a...
Il n'a pas l'air très mort, le dragon.
Non, il
n'a
pas l'air très mort.
Il va le tuer. Il a 7 personnages aussi.
Et puis pourquoi il
y a
7 personnages.
Alors pourquoi 7? 7 personnages, 7 têtes de lion,
7 dragons, 7 têtes.
Et pourquoi la fleur de lys?
Et c'est le jour de la création du monde. Et un personnage à gauche, un saint personnage au seuil d'une église.
Et la fleur de lys, pourquoi?
Et la fleur de lys. Donc on aurait là une scène de l'histoire d'un saint qui nous a raconté. Ce saint qui a fait quoi d'ailleurs?
On ne sait pas.
C'est
la question, on ne sait pas trop.
C'est pas très clair.
Non.
Bon, on va voir si la suivante vous inspire davantage.
Un lion.
Un mille fleurs.
Une chouette.
Il a une massue, des lapins encore.
Et effectivement, vous voyez à gauche.
C'est-à-dire chouette.
Un morceau qui a été remis là d'une autre tapisserie. Manifestement, il y avait un trou et on a remis un bout d'une autre tapisserie pour trouver le trou.
C'est une poche arrière. On cache quelque chose.
En fait, c'est un rapiontage, comme on dirait. Il y avait un trou, à une époque indéterminée. On a comblé le trou par un autre morceau de tapisserie qui ne correspond pas vraiment au précédent.
C'est pas les travaux d'Hercule.
C'est dans le même ton, oui.
C'est pas les travaux d'Hercule avec.
Et qu'est-ce qui vous parle des travaux d'Hercule?
Eh bien, le lion de Némée, la l'hydre, enfin la.
La licorne.
Non, tout à l'heure, c'est.
Ah, l'hydre et le lion.
La massue, voilà.
Donc on a une représentation d'Hercule avec sa massue. Et le lion de Némée, qui est un des créatures qu'il a soumis.
Il y a un carquois avec des flèches.
Il y a une flamme.
Un carquois avec des flèches.
Il y a une torche.
Il y a une torche.
On voit l'arc là, d'ailleurs.
Ouais.
Okay. Donc on aurait une représentation d'Hercule. Encore un thème de l'Antiquité, mais c'est bon, il y en a.
Sous le morceau rapporté, là, c'est pas la toison du... Je sais pas qui. Encore un des morceaux, un des travaux, non?
La toison, ouais.
La toison de...
Mais c'est vraiment les travaux?
Ah.
Baptiste se questionne. Ou alors c'est Jason, le
poison. De lion.
Des têtes de lion.
Des têtes de lion sur ses genoux. Protection des genoux.
C'est un lion, hein.
Protection des genoux.
Oui, il y a son armure au niveau des genoux et des épaules est ornée de mufles de lion. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Pour montrer vraiment que nous sommes là devant un personnage sans doute très fort.
Très fort.
Qui est une belle armure. Ouais. On verra si c'est Hercule tout à l'heure. Sont tout à l'heure, on aura la correction des copies. Hein.
Mais ça ressemble à la BD.
Alors voilà, encore une histoire, encore une BD avec tout un texte. Voilà. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui se passe et là aussi, essayons peut-être de décrire. Il y a du monde.
C'est un couronnement
ou un mariage.
Un couronnement ou un mariage. Donc, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a un homme à gauche et une femme à droite. Voilà.
Un homme à gauche.
Oui, une femme à droite.
Et une femme à droite.
Oui.
Okay. Oh non. J'ai l'impression que c'est deux hommes. Hein.
Oui,
deux hommes.
Oh, ouais. Enfin,
et c'est le même d'ailleurs, non ?
C'est le même.
Oui, à un moment.
Avant et après.
Donc on aurait le même personnage ici et là, dans deux temporalités différentes.
Oui. Puis l'histoire
en tout cas, il y a les trompettes.
L'histoire raconte au-dessus, on a les bulles de la BD. Ok.
C'est un roi qui arrive dans une cité.
Un roi qui arrive dans une cité et qui est accueilli par du monde et qui est... Et après, il siège dans une cité. D'accord. Vous avez une idée d'un roi, d'un personnage à qui ça pourrait correspondre ?
Charles
VII ?
Oui, il y en a tellement.
Il y en a tellement, oui.
Bah oui.
Alors, est-ce qu'il y aurait des indices ?
Au-dessus, si c'est le marqué.
Cherchons.
Ah, alors là, pour aller.
Qui c'est qui traduit ?
Oui,
ça va être compliqué.
Il
y a peut-être un élément qui peut... Ouais, c'est très dur. Hein. Il y aurait un élément qui pourrait vous mettre sur la voie.
C'est quoi ?
Enfin, il y en a deux.
Ah.
Ce qui est inscrit là...
Ce
qui est inscrit là et ce qui est inscrit là.
Ah, ouais.
Oui, j'avoue que c'est pas très facile pour moi. Bon, là, c'est un peu mieux visible peut-être que là. Oui, c'est pas sûr. Je vous mets sur la voie quand même.
Oui.
Là, il y a C, E, S, A. Et là, il y a B, R, U, T.
César Brutus.
Et voilà. César Brutus. C'est-à-dire.
C'est César quand il est arrivé. Voilà, qui est avec toutes ses conquêtes, tout ça. Et puis Brutus qui va l'assassiner.
Donc on a César qui est porté en triomphe, qui entre où ?
À Rome.
À Rome. Voilà. Et alors à Rome, il est à droite, c'est donc le deuxième temps de la Seine, hein, qui est séparé de l'autre par la muraille de la ville. Hein. Tout à l'heure c'est un arbre, c'est une muraille qui sépare les deux parties. Hein. Et à droite, qu'est-ce qu'il fait César ?
Il trône.
Et Brutus n'est pas loin. Brutus qui est qui ?
Son fils.
Le petit pas beau, là, oui.
Le petit en bas.
Le petit en rouge, là, avec les bas noirs.
Qui va devant.
Ah oui, là. Mais Brutus, il est là. C'est lui. Et Brutus, il va... Tout cocoué, mi fili. Il va assassiner son père.
Il a un poignard dans la main.
Okay. Donc vous avez là effectivement une tapisserie qui faisait partie d'une tenture évoquant l'histoire de César. Et là, c'est une partie de cette tenture qui évoque l'arrivée triomphale de César à Rome et son gouvernement avant son assassinat. Vous avez même devant un détail ici intéressant. Vous voyez qu'il y a deux personnages qui lèvent les bras. Hein. Il y a là un oracle qui lève les bras parce que c'est en... Ah, que la vue, on fait en avis serre. Voilà. que César allait être assassiné. Alors, il ne rentre pas, entre pas. Et derrière, il y a une femme.
Et la femme de César.
Qui est la femme des arts, qui s'appelle Calpurnie. Et qui est en train de lui dire la même chose. Rentre pas, c'est pas bien, ça mal se passe.
Elle a fait un cauchemar, elle lui a dit non,
ne rentre pas. Elle avait vu ça en rêve. Bon, là aussi, facile.
Oh, oui, c'est
comme ça. Oh, mais je voulais mettre des choses plus faciles aujourd'hui.
Hospice de Beauce.
Alors, c'est quoi?
Hospice de Beauce.
Oui, mais pour être plus précis.
Dans la chambre des malades, non?
Alors, c'est une tapisserie qui vient des tentures de l'Hôtel Dieu de Beaune, mais ça représente quoi? Maintenant que nous avons du vocabulaire, on va pouvoir le dire de manière précise, parce que nous sommes des scientifiques ici.
Ben, les emblasons, il y a des emblèmes.
Alors, on voit des emblèmes.
Les emblèmes, et puis de Nicolas Rollin.
Voilà.
Les clés, puis la tour.
Alors, les clés, la tour sur les blasons, évidemment, qui représentent l'un et l'autre.
Le N de Nicolas,
le G de Gigone.
Voilà, l'un pris dans l'autre, effectivement.
Et que c'est son seule
étoile.
Seule étoile. C'est quoi, seule étoile?
C'était la devise.
La devise de Gigone de Salins.
Oui, voilà.
Qui avait aussi comme emblème.
Ah oui, le zozio, là.
Voilà, je crois que c'est une tourterelle sur un rameau. Hein. Et au milieu
Un saint. C'est un saint.
Un saint.
Il y a une clochette.
Il y a une clochette.
Un saint lecteur
qui, effectivement, évoque les malades. À l'hôtel Dieu de Beaune, c'est pas normal, d'ailleurs. C'est qui, ce saint?
Saint-Nicolas.
Je sais pas, comme c'est Nicolas. Non, il ne ressemble pas à Saint-Nicolas.
Il n'y a pas de pain d'épices, ça va pas.
Il manque les trois gosses en Saint-Nicolas. Soit Saint-Nicolas.
Je sais pas, la peste.
Il y a un élément qui vous permet de savoir qui c'est.
Il y a une clochette.
Il y a une clochette, donc effectivement, c'est quelqu'un qui signale sa venue. Il est malade, et donc on sait par la clochette qu'il agite.
Pestiféré.
Saint-Antoine. Et voilà, on ne regarde pas assez, on ne voit pas qu'il y a un cochon.
Saint-Antoine.
Et s'il y a un cochon, c'est que c'est
Saint-Antoine.
Parce que Saint-Antoine était accompagné d'un cochon. Alors vous savez pourquoi il est accompagné d'un cochon? Il y a plusieurs versions d'ailleurs. Pourquoi il a un cochon avec lui, Saint-Antoine?
J'aimerais bien savoir, j'ai oublié.
Mais vous allez me le dire.
Non, parce qu'il était retiré.
Oui. Saint-Antoine était ermite.
Il
y a un peu deux versions qui se conjuguent d'ailleurs un peu. Parce qu'effectivement, on dit que Saint-Antoine ermite dans le désert avait comme seule compagnie un cochon. Alors il y a un peu de versions. Une première version, c'est qu'il y a un cochon un jour qui débarque, Saint-Antoine l'apprivoise, il reste avec Saint-Antoine. Mais il y a une version qui dit qu'un jour le diable, déguisé en cochon, vient voir Saint-Antoine. Mais il est tellement subjugué par Saint-Antoine, et Saint-Antoine a tellement d'énergie qu'il convertit le cochon, en quelque sorte, qui va devenir son animal de compagnie.
Il va rester cochon, il va rester avec lui.
Voilà. Donc il est toujours représenté avec un cochon. Et donc c'est effectivement une sorte d'emblème qui évoque la maladie, et donc un saint intercesseur pour la guérir. Un mille fleurs à nouveau.
Non,
pas Beaune. Oh, je n'ai pas montré que des œuvres de Beaune.
Et là, c'est elle travaille.
Elles font des travaux.
Elle file, regarde, il n'y a pas un
Il y a
un rouet,
il y a la
elle est en train de garder celle de Beaune.
Oui. Et puis l'autre, elle file.
Il y a effectivement la tombe du mouton. Guillemande est en train de filer la laine. On la carde. Donc c'est des travaux liés
au tissage,
à la collecte de la laine, etc.
Et lui il surveille.
Non, il rembobine.
Alors oui, il participe à
l'embobinage.
Oui,
il
file,
en fait.
Et puis qu'est-ce qu'il a là?
C'est le crochet des bergers.
Le bâton des bergers, c'est un pour un crochet pour rattraper les moutons.
Voilà.
Et ces bergers-là, ils vous suggèrent quelque chose? Pardon ?
Je le trouve bien élégant.
Bah, je suis d'accord avec vous. Ils sont bien élégants. Vous avez déjà vu des vergers comme ça, vous ? Enfin, non, moi non plus, d'ailleurs. Ça veut dire quoi ?
C'est des symboles. C'est encore un symbole.
C'est plus ou moins symbolique, oui. Ce sont des gens très bien habillés pour des vergers. Hein.
Oui.
Aller garder des moutons accoutrés comme ça, très vite, ils auraient été un peu décatis, ces mauvais moutons.
C'est peut-être les commanditaires.
C'est peut-être les commanditaires, mais l'idée, c'est quoi ?
La vie.
Pardon ?
La vie.
La vie, oui. Mais...
Par le fil. Enfin.
Ouais. Ah oui, vous voulez dire le fil de la vie, en quelque sorte. Oui, l'idée des parcs, par exemple. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres idées derrière ça ?
Le travail,
non ? Oui, mais encore une fois, c'est un travail qui ne correspond pas du tout aux personnages qui sont présentés.
Oui,
mais
peut-être
que c'était des commerçants qui vendaient des toiles, de laine.
Ah, c'est une manière, finalement, de publicité, d'une certaine façon.
Hein, c'est la fortune qu'ils ont eue dans le commerce.
Je vois.
Il y a des petites bourses.
Donc on aurait soit une évocation de la vie, le film de la vie, etc. La grande idée de la mythologie gréco-romaine, hein, on a vu à quel point elle était active ailleurs. Ça peut être également quelque chose qui évoque les commanditaires, qui peut être comme un... Pardon ?
Il y a leur blason.
Il y a leur blason à droite, hein, qui comme Jacques Coeur hein, aurait fait fortune dans le commerce, le négoce de la laine. Bon. Il y a d'autres possibilités encore ?
Le seigneur qui veille sur son troupeau.
Le seigneur, donc une chose veille, christique cette fois.
Oui, oui, qui veille sur, sur ses cerfs, ses vidins. Enfin,
Ok, bah
et
on
qui leur fournit de quoi se vêtir, de quoi manger, qui est là pour veiller.
Donc une dimension de, presque de pouvoir,
oui.
Doublée d'une allusion un peu chrétienne.
Mm-hmm.
Ok ? Bah, écoutez, on verra ce qu'il en est. Parce qu'il nous reste encore quelques pièces à voir. Et après, on relève les copies.
Elle est abîmée, c'est ça, non ?
Ah oui, elle est abîmée. Elle est abîmée, alors elle a été en partie recomposée. Vous voyez que cette pièce avait été coupée en deux. Et puis, bon, là, remise en forme, si j'ose dire.
C'est une église.
Une sorte d'église.
Une église avec des cardinaux, non ?
Oui, avec des religieux.
Des religieux.
Une sorte d'église avec des religieux qui apparaissent, comme sur des balcons, des loggias.
Et
un personnage central.
Il a une couronne
et puis il a des couronnes sur sa bannière.
Et sur son vêtement.
Puis des fleurs de lys dessous.
Ouais, un roi.
Donc un roi au milieu d'ecclésiastiques.
Oui.
C'est qui ?
Saint-Louis.
Saint-Louis, et c'est la Sainte-Chapelle au-dessus.
Saint-Louis, la Sainte-Chapelle.
Oui,
c'est
Il faut quand même un peu féminin, ça c'est pas...
Le personnage central ?
Non, c'est les petits personnages en bas.
Ah, les petits personnages alentour. Ouais.
C'est tellement abîmé.
Alors c'est vrai que c'est un peu abîmé et on les voit pas de très près non plus. Hein. La photo est pas excellente non plus. Enfin, on a de bonnes couleurs.
Pas tout à fait.
Bien, donc on a la représentation d'un roi qui apparaît majestueusement au centre d'un édifice qui fait penser une église, avec toute une série de figures ecclésiastiques, certains un peu féminines en bas en particulier. Voilà. Mais quel roi ? Saint-Louis, on pense ? Ça vous va, ça ?
Oui, on est au Moyen-Âge.
Bien.
Un
mille fleurs avec un blason. Ah, c'est clair. Hein.
Alors, c'est vrai, c'est un blason avec une fleur de lys.
Ça, c'est les, oh, mais c'est les bourguignons, il y a la...
Ah, puis il y a le truc de la toison d'or.
Oui,
il y a le truc de la toison d'or. Alors, avec ça...
La pierre à briquet de chaque côté.
On sent qu'il y a des gens qui suivent certaines conférences.
Mais qui ne retiennent pas les mots.
Ah.
Et en bas, il y a quoi?
Il y a le collier.
Il y a le collier, bah, la toison d'or.
Non, non, mais en bas de chaque côté.
Ah, ah, oui. Et ben, c'est les éléments. Bah, c'est des initiales encore.
Des initiales,
oui, c'est la toison d'or.
C'est la toison d'or.
C'est
le
collier. Ah, c'est Charles et Charles le Téméraire.
Donc on a le collier de la toison d'or qui pend là, hein, avec au milieu
le blason,
le blason de la Bourgogne. Hein, vous le reconnaissez, ça c'est le blason de Bourgogne quand?
C'est pas clair.
Quand quoi?
Parce qu'il a changé le blason de Bourgogne.
Oui, c'est quand bah, aussi, presque. Là, on a juste les lions en moins. Hein.
Bah, on a bon, on a en tout cas là...
On a les fleurs de lys, et puis les machins...
Et puis les rélibres.
Vous avez là, évidemment, vous avez dit que c'était quoi, ça?
C'est des initiales.
Des initiales qui sont reliées entre elles. Oui, c'est quoi comme initiale?
C.
Allons-y pour C. Et là-haut, les trucs de la toison d'or sont effectivement les briquets. Alors, je rappelle ce que c'est. Le briquet, c'est cet élément-là, métallique, que l'on tapait sur un silex, que vous voyez ailleurs en face, et qui donnait des étincelles qui permettaient d'allumer le feu. Et le briquet, c'est quoi? C'est des bourguignons.
C'est
les maillons de la toison, du collier de la toison d'or.
Alors, effectivement, les maillons du collier de la toison d'or sont faits de briquets les uns côté des autres. Mais pourquoi les briquets? Pourquoi pas, des lapins, des mille autres solutions?
Parce qu'ils étaient tout feu, tout flamme. Il ne fallait pas les embêter parce que sinon ils mettaient le feu.
Alors le briquet, évidemment, qui sont un peu contondants. Donc le briquet, c'est pour pas que les bourguignons se fassent embêter. Il y a peut-être d'autres raisons.
Oui, elle nous l'a expliqué, Madame Chabon.
Ah!
Elle
a
du feu.
Oui.
Oh, pourquoi est-ce qu'on a pu assez?
Mais pourquoi du feu? Bon, eh ben, on va voir ça en rendant les copies. Mais cela dit, vous avez vraiment été quasi parfait. Il y a deux, trois petits trucs un peu moins... Bon, enfin, non, autrement, c'est vraiment pas. Bon, j'ai classé les tapisseries. Là, parce que je vous les ai montrées un peu dans le désordre volontairement. Là, je les ai classées autour... J'allais dire de grandes thématiques qu'on a abordées au fur et à mesure qu'on voyait les pièces. Hein. On commence effectivement par les histoires, et par l'histoire au sens petit bien, c'est-à-dire les gestes. Donc, ça, c'est le geste de Jourdain de Blaye, on en a parlé tout à l'heure. C'est la rencontre de Froment et de Gérard. Je vous ai un peu indiqué ce qu'il en était. Donc, là, vous aviez bien vu, on avait bien déterminé le. C'est une de très rares tapisseries du XIVe siècle de ce genre encore existante. Tapisserie du XIVe siècle, ça ne court pas les rues. C'est un des très très rares exemples existants. Peut-être d'ailleurs cette tapisserie appartenait-elle à la collection des Ducs de Bourgogne. Sur ça, dans ces cas-là, la seule tapisserie des Ducs de Bourgogne, enfin, quand je dis les Ducs de Bourgogne, c'est de Philippe le Hardy de Marguerite de Flandre encore existante. Mais ce n'est pas sûr. C'est tout à fait la période. Je crois qu'on sait qu'ils avaient une tenture de la geste de Jourdain de Blaye. Ça en ferait peut-être partie. Mais ce n'est pas certain. Voilà. En tout cas, c'est un très très rare exemple. Dans les histoires, mais qui évoquent cette fois la grande histoire, il y a la tenture du sort de César, qui est au musée de Berne, qui fait partie de ces tapisseries qui ont été raptées au moment de la guerre menée par Charles le Téméraire en Suisse, vous savez. Charles le Téméraire a été vaincu à Grandson puis à Morat, puisqu'il avait amené avec lui tout son campement et beaucoup de choses. Et qu'il est parti en très vitesse, il a laissé derrière lui tout ce qu'il avait, notamment ses tapisseries, qui sont donc aujourd'hui toujours à Berne, en Suisse, depuis l'époque de Charles le Téméraire. Et alors, il y a d'autres tapisseries dans la tenture de César, notamment celle-ci, le moment où César franchit le Rubicon. Il y a le génie du Rubicon qui sort, vous voyez César, le Rubicon, il franchit le Rubicon. Il y a une autre série, par parenthèse, l'image est très mauvaise, de tentures un peu du même genre, mais qui cette fois rappelle la chute de Troie, qui sont quelqu'un de Zamora en Espagne, qui sont un peu équivalentes, mais qui cette fois représentent la chute de Troie. Vous voyez que, décidément, il y a souvent quand on pense Moyen-Âge, on ne pense pas que le Moyen-Âge a à ce point illustré l'Antiquité. Vous en avez là deux exemples avec César ou avec la guerre de Troie. Autrement, il y a effectivement des histoires tout à fait religieuses, on l'a vu tout à l'heure. avec la tenture de Saint-Étienne. Il y a l'invention du corps de Saint-Étienne. Hein, on a vu ça tout à l'heure, on l'a bien commenté, vous l'aviez bien vu. Vous n'aviez pas vu de qui il s'agissait, mais ça, c'est pas très grave. Hein. C'est Saint-Étienne. Et puis alors là, il y a un truc sur lequel vous avez vraiment chuté. C'est ça. C'est tout simplement un épisode de l'Apocalypse. Alors, c'est une tapisserie super connue. Je dirais même, si elle était une tapisserie médiévale connue, c'est bien celle de l'Apocalypse d'Angers. Donc là, vous avez un panneau de la tapisserie l'Apocalypse d'Angers. Hein. Alors, celui que vous avez à gauche, c'est Saint-Jean, parce que c'est Saint-Jean qui écrit l'Apocalypse. Il est donc représenté sur chaque case de la tapisserie l'Apocalypse, et il raconte en quelque sorte ce qu'il voit. Et là, c'est le moment où les humains adorent la bête, parce que dans l'Apocalypse, il y a d'abord une sorte d'horrible démon qui arrive, qui demande de manger la Vierge et l'enfant, d'ailleurs. Et puis après, il y a la bête devant laquelle les humains vont se prosterner, hein, un peu ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que les gens font n'importe quoi aujourd'hui. Ils adorent la bête, parce qu'ils adorent le fric, ça, tout ce qu'il ne faut pas adorer. Hein. Ben voilà, c'est ça. On est dans l'Apocalypse. Voilà,
on voit le 7, le nombre 7.
Parce que le 7 est un chiffre qu'on voit très souvent dans l'Apocalypse, qui revient tout le temps. Là, il y a 7 personnages, il y a 7 têtes dans les deux cas. Alors, il y a des bibliothèques, hein, sur la raison pour laquelle 7 est un chiffre sacré. On le disait tout à l'heure, hein, Dieu a créé le monde en 7 jours. Hein, mais 7 est un chiffre qui revient en permanence. C'est un chiffre, j'allais dire, symbolique, qui fait que dans l'Apocalypse, ce chiffre 7 apparaît très souvent. Hein. Donc il y a des tas de raisons qui vont des plus... Enfin, on a imaginé les raisons les plus obscures jusqu'aux raisons les plus poétiques. En tout cas, 7, et c'est un constat, un chiffre qui vraiment revient régulièrement dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Alors, ce panneau que vous voyez là, il appartient en fait à une tapisserie beaucoup, beaucoup plus grande. Hein. Là, vous avez, mais la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers a été découpée au cours des siècles. Hein. C'est aujourd'hui la plus grande tapisserie du XIVe siècle existant. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, je ne vous montre qu'un élément de la tenture de l'Apocalypse. Hein. Ça, c'était une seule et même tapisserie. Ça fait une dizaine de mètres de long, ça. Et vous avez 5 ou 6 pièces du même genre. Hein. C'est incroyable. Simplement, elles ont été découpées, elles ont été sauvées parce que, au XVIIIe siècle, un évêque d'Angers avait eu la bonne idée de faire découper les tapisseries pour mettre ça sur les stalles des chevaux de son écurie. Ça explique les chevaux de sa ville, si vous voulez. Et puis également, ça permettait l'hiver d'emballer les orangers. Et puis au début du XIXe siècle, un de ses successeurs, voyant qu'on utilisait ces trucs pour les chevaux et pour les orangers, s'est dit... Bon, ben c'est peut-être quand même pas mal, on va voir un peu ce que ça donne. Il a fait déballer les orangers, enlever ça des stalles de l'écurie, et puis on a récupéré tout ça, on a recousu ce qu'il y avait ensemble, et aujourd'hui on a à Angers, au musée de l'Apocalypse, les 6 ou 7 tapisseries de cette tenture qui sont donc reconstituées. Et voilà, la reconstitution vient. Alors vous voyez qu'il en manque, hein, il y a des blancs, parce que les parties blanches où il y avait sûrement les textes ont sauté. Les textes sont plus là. Pourquoi ? Peut-être qu'on les a enlevés, je ne sais pas pour quelle raison. Hein. Voilà. Et le morceau que je vous ai montré,
oui, c'est
est là. Voilà. Mais vous voyez que c'est le même genre d'organisation qu'on a eu précédemment. Vous avez des scènes d'un côté des autres. Hein. Et à chaque fois, vous avez Saint-Jean qui est là et qui regarde. Et il est re-représenté là. Alors c'est lui ou c'est un au départ de la tapisserie, hein, où c'est le narrateur qui dit l'Apocalypse. Or, il y a dans cette série-là une autre que je voulais vous montrer, un autre compartiment, qui est celui-là, qui est intéressant, parce que vous voyez dans le fond les mêmes emblèmes. Hein. Là, en l'occurrence, ce sont les initiales du duc d'Anjou, qui s'appelait Louis d'Anjou, et de son épouse, qui s'appelle Marie, je crois. Bien, le L et le M sont amalgamés l'un à l'autre. Vraiment, la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers, c'est le must de la tapisserie médiévale du XIVe siècle, aujourd'hui encore conservée. Hein. C'est absolument extraordinaire.
Et en face, enfin moi j'avais été, je suis vraiment désolée de ne pas avoir reconnu, il y a aussi le musée Jean Lerussa,
oui,
en tapisserie, et qui est magnifique.
Absolument,
aussi,
ouais,
en moderne,
oui.
C'est magnifique. Il a voulu faire,
ouais,
pareil.
Oui, s'il a été mis là, c'est en écho en quelque sorte à l'Apocalypse d'Angers, justement.
Ah oui, c'est magnifique.
Absolument. Aussi. Alors évidemment, bon, j'aurais pu vous en montrer plein d'autres de tapisseries médiévales. Je voulais vous montrer celle-là qui date aussi du XIVe siècle ou du tout début du XVe siècle. C'est une annonciation. Hein. Oui. Seulement, pour illustrer le fait que vraiment, les représentations religieuses, Ancien Testament, Nouveau Testament ou Apocalypse, sont nombreuses. Autrement, ce que vous avez vu là, vous n'aviez pas reconnu, c'est un preux. Vous savez, à la fin du Moyen-Âge, on va mettre en avant des figures, ceux qu'on appelle des preux, c'est-à-dire des personnages qui sont des personnages emblématiques. On va en choisir 9, 3 preux qui appartiennent à, on va dire, la légende chrétienne, 3 autres qui appartiennent à la légende gréco-romaine, pourrait-on dire, et 3 autres qui appartiennent à la religion juive. Là, vous avez un de ces preux, en l'occurrence, c'est le roi Arthur qui est là et qui trône dans une espèce d'architecture. Alors, vous en avez d'autres dans cette série. Voilà, par exemple, César, puisque le roi Arthur fait partie des héros chrétiens. César fait, avec Hector, par exemple, partie des héros gréco-romains. Et puis, il y a là un autre morceau de la tenture. Vous voyez qu'à l'origine de cette tenture, était faite de 3 tapisseries où il y avait les 3 héros côte à côte. Tout ça a été découpé, enfin c'est horrible, retrouvé dans un château en France à la fin du 19e siècle. La famille a vendu ça au Metropolitan Museum, en morceaux. Je crois qu'il y avait 95 morceaux. Et tout ça a donc été rapioté, et vous voyez, là, il s'agit de Josué et David. Mais à chaque fois, vous aviez donc une tapisserie avec 3 héros. Aujourd'hui, donc, c'est celle-là la plus complète. Les 2 autres sont beaucoup plus morcelés. Et puisqu'on est dans la parité, il y a des preux, mais il y a aussi des preuses. Et il y a aussi des tapisseries, des preuses. Alors là, je vous montre une preuse qui est Sémiramis. Mais il y en a d'autres. Il y a Pantésilée, etc. Judith, Lucrèce, il y en a plein. Voilà. Les preux et les preuses étaient, si vous voulez, surtout à la fin du Moyen-Âge, des figures emblématiques de l'héroïsme, soit masculin, soit féminin, pris comme modèle, en quelque sorte. Alors là, vous aviez bien vu Hercule, effectivement, avec... alors c'est peut-être la toison, notamment du centaure Chiron, qu'il a zigouillé, donc il a pris la toison, c'est possible. Bon, on la voit plus très bien du fait de ce rapiotage que vous voyez là. D'autant qu'il y avait peut-être un oiseau dessus, oui, c'est pas très bien. Bon, enfin, vous avez bien reconnu, effectivement, Hercule, qui vint le lion de Némée. Et là, vous avez bien vu Pénélope. Pourtant, j'avais enlevé la partie inférieure, où il y a marqué Pénélope. Parce que je m'en suis dit, ils vont lire. Bon, vous avez enlevé, mais vous avez reconnu Pénélope, bravo. Entre parenthèses, cette tapisserie-là, par son style, fait beaucoup penser à la tapisserie, à la tenture de la Dame à l'hélicorne. Au niveau de la figure du personnage, on pense que c'est le même cartonnier qui a fait cette tapisserie, qui est très fragmentaire, et la Dame Écran. A priori, c'est le même auteur pour le carton. Donc ça, ce n'est qu'un morceau d'une tapisserie beaucoup plus importante. Là, vous avez reconnu Narcisse, très belle tapisserie, donc toujours l'Antiquité. Et là, vous aviez bien vu qu'il s'agissait d'un de ces thèmes, l'amour courtois, qui est effectivement, c'est l'offrande du cœur.
Pourquoi est-ce qu'il est déchaussé
du pied? Oui, il a un pied chaussé puis un pied déchaussé.
Non, déjà sur l'autre, ils ont des choses.
Ah oui, ils ont des choses de
bicolore. Voilà, le fait que ce soit bicolore, c'est normal. Et donc, ça se fait volontiers. On a une jambe bicolore, une jambe de l'autre. C'est marrant que la mode n'ait pas du tout repris cette idée-là. Moi, je trouvais ça assez marrant. Avis aux achetes. Et on n'est pas très marrant de nos jours. Voilà. Et si vous voulez, je pense qu'il a des chaussures, mais très fines, quasi invisibles, vous voyez. On est chez des gens très bien, qui ont des faucons, des beaux habits, on parle des grosses godasses. Voilà. Et là, on est dans l'amour courtois, exactement de la même manière. Vous l'avez bien vu, très, très marrante, cette tapisserie-là. Et alors, c'est intéressant parce que c'est la même chose. En fait, ce que vous avez là, c'est des beaux gentilshommes et des belles dames qui joue à la bergère et au berger. C'est comme Marie-Antoinette, bien sûr. Si vous voulez, l'idée, quand on est un jeune homme, une jeune femme courtoise, à la fin du Moyen-Âge, c'est de, quelque part, se retrouver comme le berger à la bergère, dans un lieu bucolique, poétique.
Comme Marguerite de Flandre.
Comme Marguerite de Flandre à Gernolle. C'est exactement la même chose. C'est cette idée-là. Donc, on est dans le bucolisme. Évidemment, on a des seigneurs qui jouent au berger. Alors, vous aurez un peu le même genre de choses là, dans cette émission-là, qui montre toujours une scène courte, on se fait des cadeaux, etc. Ou ça, je ne vous ai pas montré, je vais montrer un temps pour compléter un peu. Vous avez toujours des beaux seigneurs qui jouent. Vous voyez, ils ont tous des bâtons de berger. On n'y croit pas une seconde. Mais ils en ont. Hein. Ils jouent au berger. Hein. C'est une manière de comme aujourd'hui, quand on va dans la forêt une heure, qu'on dit qu'on est vraiment écolo. Hein. Voilà, on joue à l'écolo sauvage alors qu'on est en Nike et en décathlon. C'est le modèle. On fait pas mieux. Et généralement, on a une grosse bagnole qui coûte très cher et qui dépense beaucoup de CO2. Voilà. Et là, vous avez la même chose. Hein. Et vous voyez que ces gens qui sont dans la nature jouent de la musique et puis du flutio. Enfin voilà, on s'encanaille gentiment dans un lieu bucolique. Vous avez bien vu que l'emblématique est quelque chose qui, était très développé dans les tapisseries. L'emblématique vient des animaux, la licorne, on a vu ce que ça voulait dire. Hein. Cette tapisserie fait partie d'une tenture plus importante dans laquelle, avant, il y a les épisodes de la chasse à la licorne. Hein. Voilà, là, vous voyez notamment des chasseurs. La licorne, elle aime beaucoup aller boire et notamment régénérer sa corde en la mettant dans l'eau. Hein. Ce qui fait que beaucoup d'animaux viennent parce qu'ils sont sûrs que l'eau est bonne. Hein. Vous voyez, il y a plein d'animaux qui sont d'autant plus contents d'y aller que l'eau, elle est bonne, quoi, puisque la licorne y a plongé sa corde. Hein, voilà. Alors, ils vont essayer de prendre la licorne, mais ils ne vont pas y arriver. Hein. Ils y arriveront justement parce qu'une jeune fille, vierge, comme ils ont une forêt, etc. Il y a une tapisserie de la même série qui représente ça, mais qui a été très coupée en morceaux, donc je ne vous l'ai pas montré. Vous avez reconnu là la dame à licorne du musée de Cluny, célébrissime, qui fait effectivement partie des cinq sens. Hein. Vous avez ici effectivement le goût, le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat. Hein. Donc ce sont les cinq sens, sachant qu'il y a six tapisseries dans la tenture de la dame à licorne. Hein. La sixième, à vrai dire, on ne sait pas ce que c'est, on l'appelle le choix des bijoux, parce qu'il y a une dame, belle dame, qui reçoit des bijoux, d'où le nom choix des bijoux, mais... Est-ce que c'est une tapisserie qui appartient à une autre tenture dont on n'a plus que celle-là ? Peut-être. Est-ce que c'était la cinquième tapisserie, la sixième qui faisait partie avec les cinq autres d'une tenture de six, mais qui, quelque part, évoque un peu tout le reste, mais on ne voit pas très bien comment ? Enfin, on ne sait pas très bien.
Mon seul désir.
Oui. À mon seul désir, c'est marqué, c'est la devise des devistes, des levistes. Et puis, quelquefois, évidemment, cet animal, il est tout aussi emblématique, mais aussi christique, hein, avec cet agneau de Dieu. Et puis, on a évoqué, effectivement, toujours dans la dimension emblématique, les tapisseries de Beaune, ce l'étoile, ou bien ce dais. Vous avez bien compris que c'était, effectivement, un dais qui couronnait, en quelque sorte, le roi lui-même. Ça, pour terminer, c'est aussi une des tapisseries qui a été prise dans le camp Charles le Téméraire à
Ransom-Morat. Ah oui, parce que c'est Charles le Téméraire.
Absolument. Alors, exactement. L'essai que vous avez là, c'est l'essai de Charles le Téméraire. Hein. Voilà. Là, vous avez donc l'écu bourguignon, mais à l'époque de Charles le Téméraire, où toutes les provinces prises, ou j'allais dire acquises au fur et à mesure, sont accumulées au-dessus des autres. Donc vous avez un écu sur l'Isie, parce qu'il y a plein de territoires. Et puis enfin, je vous rappelle que le briquet vient du fait que c'est Jean Sans Peur hein, qui l'a, le deuxième duc, hein, Valois, qui l'a initié, puisque son grand ennemi, son cousin, le duc d'Orléans, avait lui comme emblème un gourdin en bois, et pour brûler symboliquement le gourdin en bois, il fallait du feu produit par un briquet. Donc le briquet du duc de Bourgogne détruit le gourdin en bois du duc d'Orléans, son cousin. Vous saurez pour la prochaine fois.
Bon, je pense.
C'est tellement dans cinq séances, vous êtes OK.
Ça, mystère.
Voilà. Ben écoutez, voilà, c'était la première séance de mise en bouche autour de la tapisserie à partir du Moyen-Âge. Sachant que j'ai essayé de vous montrer là une bonne partie des tapisseries médiévales, il y en a, surtout pour la fin du Moyen-Âge, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. Tapisserie du 14e siècle, début 15e, il y en a peu.
La tapisserie de la reine. La tapisserie de Bayeux.
De la reine Mathilde, ça n'est pas une
tapisserie. C'est une broderie.
C'est une broderie.
C'est une broderie.
On l'appelle tapisserie, mais c'est en fait un abus de langage. Et ben voilà. Bravo.